spéciaux dont on a parlé tout à l'heure quand on a parlé de cinéma. Alors, autre chose aussi, vous dire qu'il y a un article qui est très intéressant dans le CQFD du mois de juin. C'est par rapport, justement, puisqu'on parle ici beaucoup de cinéma. Ça s'appelle « Moteur silence sur les prolos ». Et c'est vraiment une très bonne analyse de ce qui se passe et de la mainmise des personnes, des millionnaires, milliardaires, je ne sais plus comment on doit les nommer, ce n'est pas grave. Enfin bref, ils sont plus ou moins, ils sont en train de préparer le fascisme, donc c'est intéressant quand même de le dénoncer et surtout de l'analyser. Samedi prochain, dans les Chroniques Rebelles, eh bien, ça sera, on parlera de notre histoire, c'est les Chroniques du Caire, c'est un film d'Abou Bakr Chokhi, Cotton Queen, un film de Susana Mirgani, Entroncamento de Pedro Caballero, et puis un film qui a été repris et qui est très intéressant sur la bourgeoisie italienne. Ça s'appelle « Disons un soir à dîner » de Giuseppe Patroni Griffi, c'est très peu connu. Et nous parlerons également de trois livres d'Alain Pozzoli, « Bram Stoker dans l'ombre de Dracula », une biographie et crime à l'irlandaise chez Rouge Profond. Donc ça, n'importe comment, on en reparlera la semaine prochaine. Très très bonne semaine, et comme d'habitude, et sans le jingle, je ne l'ai pas prévu, pardon, je suis toute seule, donc heureusement il y a Nicolas qui est solidaire avec moi, donc je ne l'ai pas mis, ce n'est pas grave, n'importe comment, je crois que vous le connaissez quasiment par cœur, et je laisse évidemment la place avec une minute de retard à Nicolas de Soutseine. Tenez bon.
De Soutseine, magazine de créatures radiophoniques. Bonjour, nous sommes ensemble comme d'habitude pour une heure et demie. Une heure et demie, c'est le temps qu'un chat en ligne droite aille de l'Arc de Triomphe jusqu'à la Défense. Mais avez-vous déjà vu marcher un chat en ligne droite ? D'ailleurs, à propos de Défense, une heure et demie, c'est le temps que le ministère de la Défense dépense 8,5 millions d'euros. C'est le temps aussi que 60 kilos de mégots soient jetés et ramassés dans les rue de Paris, ramassée par le personnel. C'est également le temps que 6 bateaux entrent et sortent du port de Rotterdam. 90 minutes, c'est le temps que l'ascenseur de votre immeuble puisse parcourir 4 km à la verticale, soit 1400 étages, ce qui n'a strictement aucun intérêt. Et 90 minutes, c'est le temps que la température passe de 22 à 19 degrés à cause d'une petite pluie sur l'île d'Ouessant. Ils ont de la chance quand même, les Bretons. De Soutseine, magazine de créatures radiophoniques, quelques petits... Je me souviens du livret format A5 d'une centaine de pages, édité par les PTT, je crois, dans lequel ma mère cherchait parfois le code postal d'une ville, classé département par département. Je me souviens que j'évite d'écraser le moindre moucheron ou le moustique qui se noie dans une flaque d'eau, et que j'ai pourtant, dans le même temps, sauvé plusieurs hirondelles ou martinets qui mangent chaque fois, chaque jour, leur poids en insectes. Je me souviens d'ailleurs que j'ai remis sur elle des oiseaux qui s'étaient fracassés contre une fenêtre ou empêtrés dans le lierre, et que dans le même temps, j'ai soigné plusieurs chats errants qui mangent les oiseaux et les mulots, et les tuent parfois même pour le plaisir. Je me souviens que j'ai des conserves d'avance pour nourrir les chats borgnes et éclopés qui viennent trouver refuge dans mon cabanon derrière la maison, et que je donne parfois une pièce à Pascal qui fait la manche devant la boulangerie, et qui parfois, hélas, veut me raconter ses anecdotes de chasse. Je me souviens que j'ai toujours, dans une poche réservée, des pièces de 20 et de 50 centimes pour ne pas hésiter si on me demande une petite pièce pour manger, s'il vous plaît. Et je me souviens qu'en même temps, je paye mes impôts. Je me souviens que Pascal avait un caractère de Normand ou de Picard, c'est à peu près pareil. Comme eux, Pascal était taiseux, réservé, peu loquace et sur la défensive, mais... Si on réussissait à dépasser le contact froid et qu'il t'acceptait comme un ami, alors Pascal devenait réservé, peu loquace, taiseux et sur la défensive. Je ne me souviens pas de ce qu'on fait dans la chanson de la grosse bite à Dudule. Pourtant, merde, une rime en hulle. Je me souviens du printemps de Bourges, du printemps des poètes, de l'été indien, de l'automne à Pékin, de l'été en pente douce, du printemps arabe, de l'été meurtrier, des sports d'hiver, du nettoyage de printemps, des tenues d'été, du printemps de Prague, des rouleaux de printemps, du sacre du printemps. Je me souviens de la phrase qui m'avait inquiété. Les Perriers, les anciens propriétaires, ils avaient enterré Pépé à côté du géranium, dans le petit jardin derrière votre maison. Jusqu'à ce que je me souvienne que Pépé, c'était le nom de leur chien. Je me souviens qu'on évoque toujours, pour les repas de famille, l'oncle, qui sort des blagues vraiment limites ou balance des propos bruts de décoffrage qui mettent tout le monde mal à l'aise. Mais une chose me turlupine quand même. Comment se fait-il que ce type soit toujours l'oncle de tout le monde et qu'il ne soit jamais dans les repas de famille, mon père n'en rate pas une, ou mon mari a vraiment des propos mal placés, ou mon fils ne se rend pas compte de ce qu'il dit. Non, l'oncle, toujours l'oncle. J'irai jamais à un repas de famille où il y aura un de mes neveux ou une de mes nièces. Je me souviens que Femme Libre fête ses 40 ans à l'espace Louise Michel. Je me souviens que l'ami Jean-Daniel Belfond sur Fréquence Protestante fera ce soir une émission spéciale Julos Bocarne. Je me souviens qu'à chaque vacances, les petites ou les grandes, j'étais heureux de retrouver dans la maison de campagne ma collection des vieux pif gadgets, pif ou poche et même quelques reliures usagées de Vaillant, le journal captivant. Oh, cher Lisée, Docteur Justice, Placide et Museau, Guéluron et Jujube, Ragnar le Viking, Totoche. Et je retrouvais les pages de jeu pourtant 10 fois résolues. L'âge aidant, j'appréciais M le magicien ou même Corto Maltese. Quand 50 ans plus tard, il m'a fallu débarrasser la vieille maison, j'ai retrouvé avec nostalgie la malle où étaient rangées toutes ces BD. Beaucoup des gags étaient nuls et les aventures en 15 planches, ça faisait pas de l'aventure. Dessous de scène, aujourd'hui, ça va être théâtre, puisque je reconnais Evelyne et Anne, et qu'il y aura tout à l'heure Emoa. Et donc, tout de suite, ici, les studios. À vous, les studios.
Oui, ben aujourd'hui, on est en petit comité. Bonjour, alors, il est possible que nous ne soyons pas en direct, hein, mais... vous entendrez quand même l'émission par d'autres moyens.
En hertzien, on est en direct par la diffusion sur la région parisienne. C'est sur Internet qu'on ne nous capte pas. Prévenez vos tatas qui vous écoutent, qui nous écoutent aussi depuis la province, et prévenez Fabien qu'il peut
Internet,
faire des chrounes chasser
ça. Ouais.
Rien sur Internet, mais
téléphone non plus, parce que Jean-Marie qui voulait que je lui passe le téléphone, mais ça marche pas non plus.
Ça marche pas non plus.
Bon ben voilà, j'ai une preuve. Je lui envoyerai. Voilà. Bon, et ben, c'est dans des conditions un peu spéciales aujourd'hui, sous la chaleur.
Voilà,
comme d'habitude. Enfin, pas comme d'habitude. Hein, on approche quand même du mois de juillet. Et donc, avec Anne, ben, on est très contente. Moi, je suis très contente de recevoir. Alors, c'est la compagnie des armateurs. Non, des.
Les arpenteurs.
Arpenteurs, pas des armateurs.
Elles vont se couvrir. Non.
Non, mais les armateurs, c'est autrefois. Bon,
oui,
voilà.
Oui,
mais les arpenteurs. Ben, ça fait penser à Kafka, non? Il n'y avait pas un arpenteur dans Kafka, quelque part?
Oui, il me semble, oui.
Hein, c'est ça.
Et
hein.
La compagnie s'appelle Les Arpenteurs de l'Invisible.
De l'Invisible. Voilà.
On arpente l'invisible.
Et on a choisi ce titre parce que c'est. Un auteur qu'on aime beaucoup, qui a été nommé comme ça, c'est Maurice Maeterlinck.
Ah oui, Maurice Maeterlinck, oui.
Voilà.
On ne le joue plus tellement.
Non, on ne le joue pas.
Très peu.
Mais c'est un grand poète aussi.
Ouais, complètement.
Très grand poète, Maurice Maeterlinck.
Poète du silence.
Oui, et puis il y avait des oiseaux dans ses pièces
aussi.
Oui, l'oiseau
bleu.
Oui, l'oiseau bleu. Ah, je crois qu'il y a un arpenteur chez Kafka quand même. Hein.
Oui, il me semble aussi. Hein.
C'est
oui.
pas dans le... Ah, c'est peut-être le château de Kafka.
C'est le château.
Oui.
Voilà.
Effectivement.
Ben c'est, en tout cas, c'est arpenteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui arpente... j'imagine quelqu'un qui marche sur le parapet devant la mer, un truc comme ça, ou alors ça peut être autre chose.
Alors nous on arpente l'invisible.
Ah oui, alors c'est comme Marcel Aimé alors.
Ben un peu, tu oui. vois, on est un peu dans le...
Qui traverse les murs.
Ouais, voilà, on arpente le silence, on arpente l'indicible, l'ineffable, le non-dit, l'oublié,
ah,
le
d'accord.
dénié.
Vous
le...
êtes à l'affût un peu de... ben oui, de l'invisible. Mais l'invisible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Enfin, pour moi, hein. Bon, voilà. Il y a l'invisible qui sera toujours invisible, mais ça dépend des personnes, hein. Ça dépend de chaque personne. Il y a ce qui est invisible pour certains et qui est visible pour d'autres, et inversement, hein, à mon avis. Hein. Et comment dire... et puis, il y a aussi ce visible auquel on ne fait pas attention et qui est vraiment devant nous, hein, parfois.
Oui.
Hein.
Voilà.
Parce que... je crois que souvent on fait cette expérience que on cherche quelque chose, on cherche et finalement on découvre que c'est en face de soi. Hein, c'est vrai. Hein.
Ouais, c'est la lettre cachée de
Edgar Poe.
Ouais, c'est ça. Hein.
Voilà.
Ouais,
là, on fait étalage de notre culture.
Voilà, voilà. Là, on a montré qu'on était dans la page
voilà.
culture.
Voilà. Alors, Anne, toi, tu ne l'as pas vu, c'est dommage. J'espère que vous aurez l'occasion, là, vous partez à Avignon, mais j'espère que vous aurez l'occasion de donner votre spectacle encore en région parisienne.
Oh, on n'y manquera pas,
oui.
D'ailleurs, j'ai farfouillé un peu sur votre site et j'ai vu que vous êtes allé dans, je ne sais pas, ma moult lycée ou collège.
Oui. Hein. Ça fait déjà, on est à la 65e représentation et on a dû, faire, une bonne vingtaine d'établissements scolaires en Ile-de-France. Donc, il y en aura encore l'année prochaine aussi.
Ah oui, oui. Bah voilà. Mais ça, alors, vraiment, ce sont des conditions un peu spéciales. Dans une salle de classe, il faut bien dire ce qui est. Mmh. Et je n'ai pas été trop étonnée parce que j'ai été à un festival qui se passait à Thionville. Et où la plupart, c'était pour un festival dédié aux adolescents. Et la plupart des spectacles se déroulaient dans des salles des classes des lycées de Thionville. Bon, il faut reconnaître que Thionville, c'est pas très très gay. Enfin bon, je vais pas...
du côté de chez toi.
Je connais, moi je suis originaire de Nancy, je connais Thionville, c'est pas effectivement très très gay.
Mais love à tous les Thionvillaises et les Thionvillais.
Bon d'accord, bon voilà.
Hein. Ils nous captent pas aujourd'hui.
C'est bien. Mais cette idée de faire un festival pour les adolescents, c'était super. Je sais pas si ça existe toujours. Peut-être bien.
Oui, ouais.
Et donc, à cette occasion-là, j'ai vu des spectacles dans des salles de classe. J'ai adoré. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être qu'il y avait le public des adolescentes. Et je ne sais pas, c'est un endroit inhabituel pour s'exprimer, j'avais l'impression que les comédiens, ils se sentaient plus libres, plus... un peu excité, galvanisé par la présence de tous ces jeunes qui, en fait, en plus c'était des, j'avais le sentiment que ces jeunes, ils découvraient quand même. Hein. C'était pas quelque chose de coutumier. C'était vraiment certains avaient même la mine un peu renfrognée. Hein. C'était des adolescents un peu pas tous. L'air réjoui, hein, enfin. Mais là, ça les réveillait quelque part. J'avais beaucoup aimé. Et donc là, je suis allée à une séance, à une représentation dans un théâtre, c'était pas un théâtre, un lycée, qui avait l'air un peu bien cossu, hein. C'est le quartier du 7e arrondissement.
C'est à côté. C'est pas loin des Invalides. Hein.
Ouais, c'est pas loin des Invalides, hein.
Oui, c'est un quartier.
Oui, bon, enfin, bref.
Voilà,
on va pas en rajouter.
Voilà.
Mais c'est... il faut faire attention, ne montrez pas de blanche quand on rentre dans ce lycée, carte d'identité ou je ne sais pas quoi. Enfin, bref, on n'y rentre pas comme dans un moulin. Hein. Mais enfin, bon, j'ai réussi à rentrer grâce à l'attaché de presse. Et donc, j'ai assisté à ce spectacle qui s'appelle Poiesis. Alors, poiesis, c'est un terme un petit peu... ça fait un peu grec, un peu, hein, le mot. Hein. C'est pour ne pas dire poésie, pour sortir un petit peu de la banalité.
C'est ça, et puis pour revenir aussi à l'origine, à l'étymologie du mot poésie.
Oui, c'est ça.
C'est poiesis, et donc ça vient du verbe poiein, en grec, qui veut dire faire créer.
Faire créer.
Voilà. Mmh. Et donc, c'était pour aussi parler que la poésie, c'est quelque chose de vivant, d'organique, de quelque chose en plein mouvement et en création. Pas quelque chose de... souvent plus pour les adolescents, ils pensent que c'est quelque chose d'un peu mort, d'un peu vieux. Ça, c'est que dans les bouquins poussiéreux d'une bibliothèque, et c'est pour leur donner le sens que c'est vivant, que c'est joyeux, que voilà, et que c'est de la création. Voilà, c'était pour revenir à cette origine.
Oui, oui, et puis de toute façon, comme on a vraiment l'impression que, ça, que c'est. Que ça vient du grec, quoi. C'est du grec. Hein.
C'est du grec.
Moi, j'ai fait du grec. Hein. Bon, voilà. Et donc, ça m'a rappelé cette racine grecque du mot. Et puis, j'ai bien aimé. Donc, faire un spectacle complètement dédié à la poésie, hein, c'est formidable, surtout pour des adolescents. Parce que moi, je vais vous dire une confidence. Hein. En première, au lycée, j'ai failli faire une dépression. Une dépression, oui, parce que. Je ne supportais pas ma professeure de français. Enfin, je ne la supportais pas. Je ne lui disais pas que je ne la supportais pas. Ce n'est pas le truc. Mais elle ne savait même pas que je ne la supportais pas. Mais c'est vrai. Hein, et il y avait au programme Verlaine et Rimbaud. Ouais. Et je ne sais pas. Il y avait un truc. Je ne ressentais pas la même chose que cette prof. Ou je ne sais pas. Il y avait un truc qui n'allait pas. Et franchement, bon, une digression qui n'a pas duré trop longtemps, heureusement. Mais... Oui, oui, j'ai failli. Et je me souviens d'avoir sur mon lit le Verlaine, Rimbaud. Et puis là, formidablement, dans ce spectacle, alors, non, je manque beaucoup de culture, hein, parce que parmi tous les poèmes qui sont récités, il y a de tout. Hein, il y a Marguerite de Valois, il y a Valère Novarina. Plein d'autres.
Rimbaud.
Et voilà. Et j'ai retrouvé Rimbaud, Verlaine. Alors, cela, je m'en souvenais. Mais ce qui m'a plu, c'est comment ils sont arrivés. Parce que c'était, en fin de compte. Alors, il y avait des auteurs contemporains, ça part du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Hein, c'est tout mélangé en plus. Hein. Il n'y a pas de chronologie. Hein. Et ce Verlaine et ce Rimbaud, ils sont arrivés vers moi. Mais comme. Une grosse vague. Je ne les ai pas vus venir. Je ne les ai pas vus venir. Et j'ai adoré découvrir Rimbaud, dit par deux. Vous étiez deux, pour le dire, oui. Le bateau ivre.
Tout à fait.
Et franchement, j'ai trouvé ça superbe. J'ai trouvé ça superbe d'être rattrapé comme ça par, on peut dire, une grosse vague de poésie. Vraiment. Alors, il y avait Verlaine, mais non, je les connaissais par cœur, parce que je suis toujours accrochée à ces poètes-là. Mais il y en a d'autres, il y en a bien d'autres. Et puis, il y a une musique que j'ai beaucoup appréciée pendant le spectacle. Alors, je ne sais pas, c'est Casse-Mette non, c'était qui le refrain qui revient
Alors, il y a plusieurs. Il y a Quai de Tempête. Il y a des morceaux de Quai de Tempête,
oui,
à l'intérieur.
Quai de Tempête, voilà. Oui.
Et il y a un morceau de Yun Miyake. Qui s'appelle Lilies of the Valley et qu'on connaît surtout du film de Wim Wenders sur Pina Bausch qui s'appelle Le Pina et il y a une chorégraphie dedans et c'est cette musique là et qui revient effectivement plusieurs
en
fois
boucle.
Qui revient en boucle
oui. Ah oui Wim Wenders voilà. J'aime beaucoup Wim Wenders oui cette musique elle est très bien aussi elle scande bien elle rentre bien dans l'univers. Et donc, ce que je voulais vous demander, c'est comment vous avez réussi à faire que tous ces textes que vous avez choisis s'imbriquent comme ça, s'imbriquent si facilement. Hein, il y a du travail derrière, évidemment. Mais comment vous avez réussi à faire ce choix, cette sélection? Parce que, c'est... On pense même plus justement à la chronologie. À un moment donné, on entend du Marguerite de Valois. Bon, je l'ai reconnu parce que j'ai cherché aussi. Parce que figurez-vous, j'entends tiens cette phrase. Mais alors, c'est qui? C'est d'où vient ce poème? Donc j'ai cherché sur internet, j'ai pris un bout de phrase. Et j'ai dit Marguerite de Valois. Mais elle est jeune cette bonne femme. Elle est moderne. C'est incroyable. Elle a quoi 400 ans? Et pourtant elle dit la poésie d'une façon moderne. Mais c'est incroyable. Et franchement, chapeau, hein, chapeau. Je vous le dis véritablement, j'ai été
subjugué.
Exactement.
Voilà.
C'est le mot.
On peut que te remercier ça nous touche évidemment. Peut-être je peux dire aussi pour ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent, que dans la salle de classe,
ouais,
quand t'arrives, il n'y a pas de table. Il y a les élèves, ils sont en mode conférence.
Ouais.
Toutes les chaises donnent vers le tableau. Et quand ils rentrent dans la salle, eh ben, il y a les deux comédiens. Ils sont assis parmi les chaises.
À un moment donné, ils ne montent pas sur la table, il me semble.
Ils montent sur la table, sur ils chaises. Courent dans la classe.
Ah, oui, oui, oui. Ah, parce que j'ai souvent géré les deux qui montent sur les tables.
Hein. Si, 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 voilà.
Mais le cercle des poètes disparu.
Eh ben, oui, ça, c'est la tu vois, c'est la référence. Oui, oui, oui. Tu vois, comprends, mais sans table.
Oui, oui.
On monte sur le bureau, nous.
Monte sur le bureau, tu.
Oui, bah, c'est une table, un bureau. Hein.
Ouais, mais c'est la table du professeur.
Ah, voilà. Ah, mais alors figurez-vous, le professeur, je l'ai pas vu.
Ben oui, j'étais. Et tu vois, c'est une sorte de bain comme ça, et les élèves, quand on joue avec le public, on joue dedans le public.
Oui.
Et la première question, le premier texte qu'on dit, c'est une sorte de zoom qui vient des étoiles, de l'interstellaire, qui arrive dans notre système solaire, puis qui arrive sur la Terre, puis qui arrive dans un jardin public avec des ados qui discutent, qui boivent des coups, et puis après on a un zoom sur les immeubles. Et puis juste après ça, nous... qui étions assis dans le public, on se lève et on va écrire, on va coller sur le tableau une question. La question, c'est « Le jour va-t-il enfin se lever ?»
Ah, voilà. Ouais.
Et c'est pour ça que poieim, ouais, poiesis, tu vois, on se dit, on s'est dit, quand on a voulu monter ce texte, qu'il fallait qu'on parle à tout le monde, mais aussi aux jeunes gens, et de leur dire qu'on ne se résoudrait pas à l'inaction, ni qu'on accompagnerait nos camarades déprimés, etc., bien sûr, mais que l'idée, c'est de se poser des questions et de rester en mouvement et de, par l'action, trouver une perspective. Et donc, comment on a fait ? Ben, on a beaucoup discuté.
Oui, ça s'est fait assez naturellement, en fait. On s'est vu pendant un an et demi, régulièrement, juste avec l'envie de se dire des textes.
Ah oui.
Voilà. Et vraiment, en se disant, en essayant au maximum de... Justement, pour parler des différentes époques, en essayant de ne pas dire aux autres les auteurs.
Ah oui, d'accord.
Et parce que souvent, quand on est comédien, et même quand on va lire un texte, on est imprégné d'un cliché. Tiens, c'est de la poésie du 17e. Naturellement, il y a quelque chose d'ampoulé qui va venir. Mmh. Et on voulait essayer de s'enlever de tout ça, pour justement que ça paraisse, et pour que Marguerite de Navarre et Louise Labbé paraissent ultra contemporaines et résonnent autant que Kerry James, par exemple. Et donc, on a mis tout à plat comme ça. Et naturellement, au fur et à mesure des discussions, de l'actualité, les textes se sont imbriqués les uns avec les autres et se sont répondus comme ça, d'un constat de notre société, du monde dans lequel on vit. Et bah, après, qu'est-ce que ça provoque chez chacun d'entre nous intimement? Et comment on peut s'en sortir et par quoi on peut s'en sortir, par la poésie, par l'imaginaire, par le langage. Et déjà, essayons de, juste en changeant des mots, en s'amusant avec les mots, on peut déjà changer notre façon de voir le monde. Donc c'est vraiment parti de cette et ça s'est imbriqué naturellement.
Ah oui, ouais. Ah oui, parce que évidemment je ne les connais pas tous, hein. Je reviens toujours à Verlaine et Rimbaud, mais Verlaine, effectivement, on sait que c'est du Verlaine. Enfin, moi, oui, j'ai su, j'ai reconnu. Bon, ben, voilà. Mais on ne dit pas que c'est Verlaine. Mais je l'ai reconnu parce que il faut dire que c'est un superbe poème. Et donc...
Il pleure dans mon cœur.
Voilà, c'est ça. Mais la façon dont c'est dit, ça devient naturel, quoi. En fait, c'est pas vous qui l'avez créé, ce poème. Mais ça pourrait très bien être vous, quelque part. Hein?
Et ouais, et en fait, c'est tout le boulot de Jérémy qui nous dirige en tant que comédien. C'est de comment on fait pour sortir du souvenir de quand on est gamin, qu'on nous demandait de venir devant tout le monde et de dire le titre du poète, du poète ou de la poétesse, quand il y en avait une, et de balancer la récitation. Avec ces moments de nanana, 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 et donc d'autres coups qui donnaient à la poésie un truc complètement suranné, poussiéreux, ce que tu disais, Jérémy. Et du coup, Jérémy, lui, il nous dirige justement dans le respect du texte, hein, tu vois, c'est des vers en 12 syllabes, en 6 syllabes, tu vois, on fait des rimes, etc. On est sérieux, on fait pas d'élision, etc. Ou on en fait une quand on le choisit, mais l'idée, c'est d'être proche. Il faut que... De toute façon, quand tu es devant un public d'ado, si tu triches, t'as perdu.
Ah ben d'accord. Ouais, ouais.
Ils t'as perdu. Ils le sentent.
Ils le sentent. Tu te prends un vent. Et puis, ils sont tellement là. Ils sont à 20 cm. C'est dedans eux. Donc, dès que tu en fais un peu trop, que c'est trop ampoulé, bah, tu te prends un raz de marée. Dès que tu es trop artificiel, bah, ils ne s'écoutent plus. Donc, toute la direction de Jérémy, tout notre travail à nous, c'est d'être au plus proche de nous-mêmes et d'être, en fait.
Et de se laisser traverser par ces différentes langues et par ces mots. En fait, de pas, en tant que comédien, projeter quelque chose et de vouloir le produire et le reproduire. Mais, par exemple, s'il y a un sentiment, une émotion qui arrive, de pas vouloir la reproduire à chaque fois. Parce que chaque représentation est différente en fonction de l'écoute des gens, en fonction de l'état des comédiens, de vraiment être au moment présent. Il n'y a plus de quatrième mur, c'est de la poésie, les yeux dans les yeux à quelques centimètres, et d'enlever tout ça pour être au plus juste et que les mots traversent les comédiens et qui provoquent des choses chez les comédiens et chez le public, et ça communique comme ça, en fait. Il y a une communion qui se fait assez circulairement comme ça.
Oui. Ça me rappelle, moi, alors là, c'est pour Nicolas que je dis ça. Il y a quelques années déjà, un bon bout d'années, avec Vincent Jarry, on était quelques-uns, on allait à Arcueil, près du... Il y a un grand pont à Arcueil.
Ah, le viaduc là-haut.
Le viaduc d'Arcueil. Il y avait un petit café, avec des machines, vous savez, les machines, je sais pas quoi.
Les flippers, là.
Les flippers, ouais. Et on allait comme ça, même tard, hein, assez tard, parce qu'on rentrait tard la nuit. Je me souviens, on croisait ce fameux viaduc. Et alors, on partait. Alors, il y avait Guy Perrault, qui était un poète, voilà. Et il y avait Vincent Jarry, il y avait mon ami Jean-Marie, moi-même, et une autre jeune femme, je ne sais plus comment, etc. Il y avait une autre jeune femme. Et alors, il était très content, le patron du bar, parce que, voilà, notre but, c'était de... C'était pas vraiment du slam, mais notre but, c'était de, à un moment donné, à la surprise de tous les personnes qui étaient dans le café, de se lever et d'aller dire un poème. Et ça marchait bien. On avait même dit du Victor Hugo. Et je me souviens, les gens, ah oui, Victor Hugo. Enfin, ils étaient très contents. Mais on les sortait de leurs habitudes, ils quittaient leur flipper, et tout le monde était très content. Ah oui. Il y avait la pêche, puis c'était des poèmes qu'on avait créés nous-mêmes, etc. Alors, c'était peut-être du slam, mais enfin, disons que c'était le fait de dire de la poésie au milieu de gens qui n'étaient pas forcément venus pour ça. Mais on venait un peu bousculer leurs habitudes et ça marchait bien. Il y avait je m'en souviens. Et ça m'a fait aussi penser, votre démarche, ça m'a aussi un peu fait penser à ça.
Tu vois, tu parles de slam, tu dis que c'est pas du slam.
C'est pas du slam dans la mesure où il n'y avait pas de technique.
Depuis le début, depuis tout le temps, on dit scander.
Ben voilà, du scand. Oui.
Et scander un poème, et en fait, scander, c'est danser. C'est un mouvement.
Alors on bougeait, voilà.
Donc en fait, la poésie, à la base, le slam est dans la poésie. Enfin, le slam,
voilà.
C'est juste de...
Mais je veux dire, on n'avait aucune technique. Enfin, je veux dire, le seul but, c'était de dire de la poésie. Voilà.
Donc ça vient du cœur.
Voilà, c'est ça, exactement. Et on arrivait à ce que les gens qui étaient autour, qui n'étaient pas venus pour ça, forcément, parce qu'on les... Vincent Jarry, c'est à peine s'il prévenait les gens qu'il allait avoir de la poésie. C'était pas un grand... il n'avait pas l'esprit pratique de façon extraordinaire. Et donc, mais on venait comme ça, on était 4 ou 5. Et j'avoue que j'ai des bons souvenirs de cette époque-là, parce que la moyenne d'âge, c'était 80 ans quand même. Hein. Ah oui. Oui, on n'était pas des jeunes. Enfin bon, j'ai pas encore 80 ans. Mais n'importe comment, c'était une belle aventure. C'était une belle aventure. Mais justement, j'aime pas quand c'est trop quadrillé, qu'il y a des règles ou des choses comme ça. Mm-hmm. Je trouve que... Et votre démarche, bon, nous... De toute façon, j'aurais quand même commencé à être un professionnel. Hein, c'est un professionnel. Pas moi, mais bon, ça fait rien. Hein, même si on n'est pas professionnel, on a le droit de dire de la poésie quand même.
Ah bah oui. Surtout.
Surtout.
Voilà. Et votre démarche me rappelle aussi ces moments de, de bonheur, hein, tout simplement. Hein. Et il y avait de la demande. Il y avait de la demande. Mmh. Et il y en a encore. Moi, je ne fréquente pas tous les lieux où on dit de la poésie, mais je pense qu'il y en a encore.
Oui, il y en a.
Il y en a. Hein.
Et, ouais, et la chose qui est sûre, c'est que moi, je ne suis pas adolescente, je ne suis pas collégienne, mais j'ai été séduite par votre spectacle. Voilà. Hein, c'est pas... Alors, on va peut-être écouter... c'est pas parce qu'on n'est pas dans les conditions habituelles. On va essayer d'écouter un extrait musical. Thank you. Alors, on va peut-être... Alors, on va écouter votre partenaire.
Mm-hmm. Oui, Jordan Sajous.
Jordan Sajous.
Dans un texte qui s'appelle « Je rêve que je galope » de Sonia Chiambretto.
C'est des beaux textes, hein, moi j'adore.
Je rêve que je galope. Je rêve que je galope à cheval dans une prairie. Je rêve que je galope à cheval dans une prairie remplie de fleurs. Je rêve que je galope à cheval dans une prairie remplie de fleurs. Partout des fleurs et des pétales, des milliers de pétales, je rêve. Je rêve que je galope à cheval dans une prairie remplie de fleurs et de pétales, des milliers de pétales, des pétales d'or, de l'or scintillant, des pétales qui brillent, et que je suis poursuivi par une horde de gens qui ne me rattrapent jamais. Je rêve que je galope dans la prairie remplie de fleurs et de pétales. Je rêve que je saute la rivière qui descend. Je rêve que j'éclate de rire. Je rêve que je suis poursuivi par la horde de gens qui ne me rattrapent jamais. Je rêve que je galope, que je traverse la prairie scintillante, que mon cheval déploie en grand ses ailes, que je m'envole. Je rêve que je vole. Je rêve que je vole.
Ah oui, ça, moi j'aime bien. C'est... Puis alors, dans une salle de classe.
Là, c'est le moment en plus où il prend tout l'espace, il dit que je rêve que je vole, et là, il court dans toute la salle de classe. Et c'est là, à chaque fois, les spectateurs, que ce soit les adolescents ou tout le public, qui est assez surpris. Parce qu'effectivement, là, les mots viennent de partout, ils courent, on ne sait plus regarder.
Ben oui, parce qu'en plus, il y a des mots qui sont affichés sur les murs,
oui.
Un petit peu en quinconce, enfin, ils sont affichés n'importe comment, ils ne sont pas... Et on se croirait un peu dans un poème de Prévert, ou un tableau de Prévert, où tout se bouscule, enfin, tout... c'est assez... ben, c'est chouette, quoi, je veux dire, parce que vraiment, tout s'anime. Hein, on a l'impression que les murs s'animent, que tout bouge. C'est vraiment une belle impression.
On voulait une plongée complète dans la poésie. Et donc il y a cette immersion où les comédiens sont très proches du public, mais aussi effectivement par les mots, pour que bah, quand on en a marre d'écouter, parce qu'au théâtre, la poésie, on décroche. Et c'est bien de décrocher, il faut décrocher. Mm-hmm. C'est bien de rêver aussi. Mm-hmm. Et de permettre aux spectateurs de rêver. Et que tout d'un coup, bah, ils n'écoutent plus le texte, c'est pas grave. Mais comme il y a des mots accrochés, bah, ils font eux-mêmes leur propre voyage poétique en lisant un mot, un autre mot. Et ça crée d'autres sens, d'autres significations. Et de permettre comme ça un autre voyage que dans une représentation classique. Donc c'est pour ça qu'on voulait aussi que ça... C'est des haïkus.
Oui.
La fiche des haïkus au mur.
Oui, oui, oui.
Et ça se mélange. Et ça, on aimait beaucoup que ça...
Oui.
Et à un moment, on se met debout sur les chaises. Il y a un petit îlot. Et en contrebas de nous, il y a le public qui est comme une marée.
Oui.
Et là, on commence à dire le bateau ivre.
Ah oui, c'est ça.
Et on est deux et on prend le relais et l'un de l'autre et on avance et on voyage dans cette épopée complètement anarchiste. Hein.
Oui.
Rimbaud se dit à la dernière vers qu'il ne veut plus nager sous les pontons où les communards ont été enfermés dans les bateaux parce qu'il n'y avait plus de prison. Il dit qu'il ne veut plus ignorer le sillage des porteurs de coton qui fait référence aux bateaux esclavagistes, etc. Mais il dit aussi dans la première strophe de son poème le mot peau rouge.
Oui.
Et nous, à ce moment-là, pendant que c'est Jordan qui le dit, moi je prends un carton noir sur lequel est écrit peau rouge, mais en plein et en délié, comme l'écriture qu'on avait mes institutrices dans les années 70-80.
L'écriture de mon père aussi.
Vous voyez ce que je veux dire, l'écriture des hussards, des hussards de la République. Mmh. Et à un moment, après ce grand poème de Rimbaud, je montre cette pancarte noire et je la déchire en deux. Mmh. Et d'un côté, j'ai le mot peau, de l'autre côté j'ai le mot rouge, et je vais le scotcher ailleurs dans la, dans la salle, et donc je défais.
Ouais.
La, je défais ce que l'héritage, je dénonce l'héritage, oui. Je garde la fulgurance rimbaldienne, mais je dénonce ce que j'en ne veux pas. Et c'est là, juste après, que on dit, Jordan et moi, à un poème de Kerry James.
Ah oui.
Qu'il n'y a pas de couleur qu'on vous a apporté.
Ouais.
Est-ce que ça vous dit
de l'entendre? Oui, ça me dit, oui.
Il n'y a pas de couleur pour aimer. Il n'y a pas de couleur pour souffrir.
Pas une couleur qui t'empêche de mourir. Pas une couleur pour s'aimer. Pas une couleur pour sourire. Pas une couleur pour pleurer.
Il n'y a pas de couleur pour que la mort t'emporte. Il n'y a pas de couleur pour tricher ou tromper. Pas de couleur pour blesser ou tuer.
Pas une couleur qui t'immunise contre la douleur. Pas une couleur qui te rende supérieur.
Il n'y a pas de couleur pour être stupide, ignorant, raciste et borgne.
Pas une couleur attitrée à l'absurdité. Pas une couleur qui te rende supérieur.
Pas une couleur qui t'empêche de te sentir seul, foudroyé, rescapé d'un amour manqué.
Pas une couleur qui t'abrite de la pauvreté.
Pas une couleur qui garantisse ton honnêteté.
Pas une couleur qui te protège de l'erreur. Pas une couleur qui te protège de la peur.
Il est temps d'être humain autrement.
Ah oui, très bien. Et alors, ce qui m'avait frappé aussi au début du spectacle, c'est que quand même, alors je ne sais plus qui c'est qui parlait au début du spectacle, c'est votre c'est partenaire
Jordan,
qui commence.
Jordan, ouais.
Ouais, Jordan
ouais.
qui commence. Et après c'est vous.
Ouais.
J'ai ressenti quand même qu'il il est quand même celui qui parle. Je ne sais plus quel est l'auteur. Je ne sais même pas.
Quelle tempête.
Quelle tempête. On ressent quand même l'expression d'un mal-être. Hein, véritablement d'un mal-être. Il dit Il se pose plein de questions. Alors, c'est vrai que c'est un peu référence à l'adolescente hein, qui se pose des questions. Hein, ça, il n'y a pas de doute. Hein. Et il dit, je vais être éclipsé. Enfin, et presque, on pourrait penser presque qu'il est déprimé. Enfin,
tu peux y aller. Hein,
c'est ah, je peux y aller. Oui.
Tu peux y aller. C'est exactement.
C'est un texte qui parle de quand on est spectateur de sa propre vie
ah,
et
voilà.
qui a la sensation de ne pas être dans la vie, en fait. De pas être et il se voit lui-même en train d'agir mais pas être là au présent. Et effectivement, c'est une sensation même qu'on peut ressentir à l'adolescence mais pas que, et ça parle à énormément de personnes, et de partir surtout en ce moment avec tout ce qui se passe dans le monde et dans notre société, de sentiments aussi de dépression qui peut nous envahir, de plus savoir quoi faire avec tout ça et comment on peut faire, comment réagir,
oui,
comment
en
agir.
En fait, quelqu'un qui ne trouve pas dans la vie telle qu'elle se présente à nous, il faut le dire, hein, quand on écoute les informations, quand on écoute ce qui se passe autour de nous, bon, il ne voit rien qui concorde avec ses rêves, quoi.
C'est ça.
Hein? C'est quand même ce sont des rêves qui sont devenus impossibles, quelque part. Et donc, justement, l'auteur...
Quête Tempeste.
Quête Tempeste exprime ça vraiment très, très bien.
Et c'est après que on décide de coller les papiers, une fois qu'on est allé au fond de cette dépression, on va même jusqu'au conflit. Après un long poème de Novarina qui égrène toutes les façons de dire qu'on est fatigué. alors ça va de
Schlass, Naz, Nasbrock, Chaos, Rétamé, Six pieds sous terre,
sur les rotules, dans le potage, sur 110 volts, vivement ce soir qu'on se couche, ratatiné, exténué, vidé, mort, cassé, flappy, fagada, tête à zéro, rien dans les pattes. Et après ce poème là, à force d'avoir dit et déposé notre
lassitude,
ouais, notre dépression, notre lassitude, on s'insulte. Et ensuite, on revient à l'autre par l'imagination. Et c'est ce moment où Jordan court et dit « Je rêve que je galope, je rêve que je galope
». Ah oui,
juste
d'accord.
Après ça, on jaillit et on colle des haïkus. avec des post-it de toutes les couleurs. Mmh. Et à partir de là, il va y avoir un tourbillonnement, où on va appeler à un nouveau monde. On va appeler au désir, à l'imagination, à la libération de soi par soi, de soi par l'autre, à la relation. Dépression, mais pour aller au fond et
pour remonter.
Mais les deux sont là, quoi, tu vois.
Est-ce qu'il y a des poèmes que vous avez évités parce que bouffe.
Oui. Bah, en gros, on est sur une ligne de crête en ce moment, on voit très bien. Il faut qu'on garde la solidité morale pour faire face à toutes les forces qui nous assaillent, qui vont du racisme au fascisme, en passant par au climato-sceptique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je parle en lieu sûr, je sais où je suis. Et du coup, il ne faut pas trop nous accabler. Il faut qu'on reste debout. Donc, parfois, il faut dire la peur, mais quand ça fait trop peur, les textes qui allaient trop dans le fond, on essayait de ne pas les dire. Ou en tout cas, de les contrebalancer tout de suite par d'autres choses, par du mouvement.
Et mais il y a des textes qui... Il y a un très beau texte qui s'appelle « Ténèbres » de Lord Byron.
Ah oui, j'adore Lord Byron.
Il est très, très beau, ce texte-là, « Darkness » en anglais, et qui décrit une apocalypse, quoi, un monde apocalyptique où il n'y a plus de soleil, il n'y a plus rien, il y a les villes et les forêts sont en feu, les hommes meurent de faim. Enfin, c'est vraiment... là-dedans, mais c'est tout de suite, effectivement, comme dit Florian, pour tout de suite aussi dire « Ok, on en est là, mais qu'est-ce qu'on fait ?» On part de là, ok, on part de là, c'est notre quotidien, l'impasse collective, et qu'est-ce qu'on fait?
Comment on est humain autrement?
C'est ça.
Ah ouais, ça.
Hein. Comment?
Et donc, les collégiens donc, ont dû apprécier ces poèmes. Est-ce qu'il n'y en a pas peut-être des filles qui disaient, il n'y a pas assez de poèmes de filles, de femmes?
C'est paritaire!
C'est paritaire. C'est quasi paritaire.
On s'est cassé la tête c'est pas ce qu'il y a, c'est très, les poétesses sont encore très invisibilisées. Mais là, pour les nommer, on a un poème d'Anna de Noailles.
Oui, bien sûr.
Je vais te laisser le faire parce que ma mémoire.
Il y a Marguerite de Valois.
Marguerite de Valois.
Christine de Pizan, non.
Louise Labbé.
Il y a aussi une poétesse, une autrice contemporaine qui s'appelle Marie Pavlenko. Il y a aussi Sonia Chiambretto.
Il y a Kay Tempest.
Et Kay Tempest.
Kay Tempest qui lui était. Qui a été. Qui se genre. Il se genre quoi?
Il
se genre
binaire.
C'est une femme qui est devenue. Qui a décidé d'être à cheval entre l'homme et la femme. Donc c'est une. Voilà.
Elle est homme et femme.
Elle est trans. Ouais.
Elle est trans.
Mais. Voilà.
Mais oui, on a essayé vraiment de. Et c'était effectivement pas si simple d'être paritaire. Et ça nous a permis de redécouvrir. Moi, j'ai redécouvert Anna de Noailles. Et c'est des textes magnifiques. Il y a un texte qu'on utilise à la fin où. Qui est autour presque de faire essayons de faire l'expérience d'être dans d'être la nature en elle-même, d'être un homme arbre. Et c'est Jordan qui dit ce texte-là qui est très très beau, de voir jusqu'où on peut aller en faisant cette expérience-là. Et voilà, non, c'est des textes. On a vraiment essayé d'être paritaire en tout cas au maximum. Et ça se passe justement. Il y a des très belles réactions de collégiennes et de collégiens sur le spectacle parce que ça leur parle énormément en fait.
Et il y a un...
Excusez-moi, je pensais à l'épouse d'Edmond Rostand qui était Marceline Desbordes de Valmore.
Oui, tout à fait. Donc, on a beaucoup, on a plongé dans. Ouais. Et on a choisi Anna de Noailles.
Voilà. Et ben voilà.
On en avait plein, mais c'est ça qui se répondait pas.
Trop, tu vois,
on pourrait en faire 10 des spectacles comme ça. C'est...
Oui, mais en même temps, quelque part, justement, comme vous ne donnez pas le nom des auteurs.
Oui, on s'en fout.
Donc, Marguerite de Valois. Je l'ai entendu, et j'ai découvert que c'était Marguerite de Valois, parce que j'ai cherché. Mais quand je l'ai entendu, à la limite, ça aurait pu être un homme, parce que Verlaine, je suis désolée, il a un côté très féminin. Hein.
Mais justement, la poésie, c'est cet endroit où on peut tout être.
Hein, c'est ça, c'est ça. Et on n'est pas obligé de savoir si c'est un homme ou si c'est une femme. Hein, c'est justement, en tout cas... C'est ça qui est formidable avec l'écriture. Hein. Je l'ai expérimenté personnellement. Ce qui est formidable avec la lecture, c'est que on est dépouillé un peu de... on a un auteur, d'accord, on écrit, mais quand on écrit, on oublie. On oublie son image, quelque part. Mm-hmm. On oublie... si je me mets à écrire, je vais oublier que je suis une femme. Hein. Et je ne vais pas me dire que je suis un homme parce que j'ai oublié que j'étais une femme. Ce n'est pas le problème. Non, mais c'est vrai. Oui, oui. Donc, voilà, je suis une personne, quoi. Voilà.
Et, exactement.
Voilà, je suis une personne. Et c'est bien d'exister... parce que, quand même, dans la vie de tous les jours, on vous renvoie à votre image.
Exactement.
Hein? On vous dit, toi, t'es petite, toi, t'es grosse, toi, t'es moche, toi, t'es vieille. Enfin, mais si je me mets à écrire, hein, et je peux avoir utilisé un pseudonyme ou n'importe quoi, si je me mets à écrire, on ne sait plus. On ne sait pas comment je suis. Mmh. Ce qui compte, c'est ce que je viens d'écrire. Mmh. Et ça, c'est formidable, non, quelque part. Ah,
complètement.
Et c'est vraiment, le spectacle est vraiment nous partie de cette idée de parler de l'humanité. Et que peu importe le genre et l'époque, en fait, les questionnements sont toujours les mêmes. Qu'on parle de rapport à soi, rapport à l'autre, d'amour, les questionnements sont les mêmes. Peu importe même l'âge, parce qu'on joue pas que dans les collèges et lycées, on fait aussi des représentations tout public et intergénérationnelles. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que ça parle à tout le monde. Parce qu'on vit tous les mêmes choses, que ça soit il y a des siècles avant ou aujourd'hui, les questionnements sont les mêmes, c'est la question d'être humain. Et c'était vraiment cet endroit-là d'essayer de sortir des cases. On a parlé de peau rouge, mais effectivement, même en règle générale, à la fin du spectacle, on se dit, mais non, j'ai pas envie d'être ce dont on veut que je sois. On m'assigne à quelque chose, j'ai pas envie, donc j'ai envie d'être autre chose. Et là commencent des très beaux textes, notamment d'un poète amérindien, et d'autres aussi qu'on a ajoutés, où effectivement on dit je suis le vent, je suis le cheval, je suis tout ce que je veux être, et nous sommes tout ça, tous ensemble. Nous sommes la nature, nous sommes... d'essayer que ça ne fasse plus qu'un, et qu'on parle de... profondément de l'humanité et non pas de chacun de nos petites cases respectives.
Ouais. Non, c'est un feu d'artifice de poésie. Hein. Mais le mot artifice dans le bon sens. Voilà. Ouais, voilà, exactement. Alors on va quand même dire où ça se passe, hein, faut quand même le dire.
Allez, soyons
fous.
Alors on va jouer au Festival Off d'Avignon tout le mois de juillet, du 6 au 23 juillet à 11h30, et ça sera au théâtre qui s'appelle le 11 Avignon.
Voilà, c'est Raspail, non? C'est pas ça? Non.
C'est Boulevard Raspail, tout à fait.
C'est Boulevard Raspail.
Ouais, oui,
ça. C'est...
pas loin de la gare.
Mais pas loin de l'avenue de la République.
C'est ça.
C'est
ça.
Perpendiculaire à l'avenue de la République. Voilà. Oui, bon, c'est un bon. Et là, ce sera au lycée Mistral.
Ce sera au lycée Mistral. Oui.
Au lycée Mistral.
Dans une salle de classe avec 49 spectateurs. Donc
seulement
partie... Oui, justement, c'est pour l'immersion dans une salle de classe. Et c'est un spectacle qui marche très très bien, justement. Bah, si on se parle les yeux dans les yeux, on peut pas être 600, on peut pas être 100 même, c'est déjà beaucoup. Pour pouvoir justement parler à chacun d'entre eux, les comédiens ont besoin d'être quand même assez proches et avec peu de public.
Oui. Et c'est à quelle heure?
C'est à 11h30.
11h30.
Et en ce moment, à Paris, vous avez fait terminer, là.
Oui.
Vous faites les valises pour aller.
C'est ça. Là, on est sur le départ bientôt. Là, on va bientôt partir.
On est prêts. On se prépare.
Et alors, vous avez d'autres spectacles en cours
Oui. On a plusieurs spectacles avec la compagnie. On a effectivement Poésis qui tourne. On vient de terminer la tournée d'une adaptation de L'homme qui rit de Victor Hugo.
Ah oui, parce que L'homme qui rit de Victor Hugo, c'est quelque chose quand même.
C'est sûr,
ça
aussi.
Mais c'est une langue superbe, magnifique. Victor Hugo.
Hein. Oui.
Hein, c'est vraiment...
Donc ça a été un bonheur. On l'a créé en mars 2025 et on l'a tourné 25 dates en Île-de-France. Donc là, on espère, on a peut-être des pistes pour pouvoir le jouer la saison prochaine. Et puis là, on est avec la compagnie en train de monter la production du prochain spectacle. Et ça sera un spectacle jeune public, qui sera une adaptation d'un roman jeunesse de Patrick Ness qui s'appelle « Quelques minutes après minuit ».
Ah oui.
Un roman à partir de 10 ans autour de la maladie et de la mort. Voilà.
D'accord.
C'est une manière très délicate et très beau, un conte fantastique autour aussi qui parle de la résilience. Bah,
il faudra nous contacter, hein,
bien sûr.
Qu'on aille voir le spectacle.
Avec plaisir, bien sûr.
Oui. L'homme qui rit, ça m'intéresse.
Oui.
J'aime beaucoup. On a encore un peu de temps. Hein,
oui.
Si vous voulez
un poème.
Ouais.
Qu'est-ce que je peux dire comme poème? La montagne, le vent, les yeux gris des falaises, l'herbe haute engloutie par la nuit qui s'agite, chevelure hirsute, la forêt silencieuse, feuilles mortes craquant sous les sabots fendus, la lune crève le ciel, et le silence obscur écoute les souffles courts. La hulotte s'envole, une fougère remue, les arbres se racontent et chantent une chanson que chaque oreille connaît.
Time coming to right now, pipe down, lifetime looking for things I thought I'd found already. Falling to the floor like I'm alright, I'm steady. Set myself back so I can tell me 20 years deep in the rhymes and beats, and I'm still so far from finding peace. Every line is a ladder I can climb through time, and I walk straight face through these winding streets. I eat the bread of rhythm, I drink the milk of rhyme. I've been carrying a bag of shame that's bigger than me, dragging it behind me, up and in the staircase until the day I realize this doesn't mean what I think it does. I don't need to carry this forever. I left it in the clearing by the fire pit and ran back to the child I was, looking for an elder. I saw myself there, I took myself by the hand.
When I was young, I sought help from my older self.
I came into my head, I told me know yourself. When I was young, I sought help from my older self. I came into my head, I told me know yourself. I was 17, heaven seemed close enough to touch. I had never been happier, chest against a barrier, watching Wu-Tang, my own character starting to bloom. I was learning how to capture a room in two phrases, 20 years deep in the rhymes and beats. Close my eyes and speak down the wires of time. I go back to the child I was when I put myself on the line. I had to beg for the mic, I had to deal with the ignorance, I had to get better, I wanted bigger things. Well, these days, those days, they are far away. Try and catch them in my sights, but they start to fade. Now I sit amongst crate loads of rhyme books, and I think about the days that the time took. I thank the little me that put the work in. Like, could you picture me when you were spitting 16s, surfing the top deck, penning in bars, underage in the clubs, taking charge of the mic, precocious little nothing with the world in your sights. I am on it now, I will work harder. This is peace to the kid I came after.
Peace to the kid I came after.
The words are the bridge between the present and the past. I know myself at last.
When I was young, I sought help from my older self.
I came into my head, I told me know yourself. When I was young, I sought help from my older self. I came into my head, I told me know yourself. Know yourself. Know yourself.
Soon, child, you were gonna find release.
Eh bien, c'était précisément Quai Tempête sur Radio Libertaire 89,4 MHz, puisque aujourd'hui on n'émet que sur la bande FM et pas sur le streaming et autres. Oh, qu'est-ce qu'on a comme mot? Mais c'est dégueulasse. Streaming, DAB+, trouvez-moi des mots francophones.
Qu'est-ce que je voulais dire? Le podcast, il va fonctionner ou pas? I don't know.
Il va revenir sur pied avant la fin du week-end, à mon avis, quand même.
Ah, donc il n'y a pas de podcast. Donc j'ai bien fait d'enregistrer. Bon. Eh ben, je vais vous libérer.
Merci beaucoup de nous avoir reçus.
Hein,
et
la chaleur, voilà.
On repart dans la fournaise.
Exactement. C'est ça.
C'est ça.
C'est ça. C'est ça.
En tout cas, c'était bien sympa de venir
ouais,
nous
ouais,
voir.
Ouais, ben,
grand plaisir.
Merci ouais, beaucoup de nous merci. Avoir reçus et tout. Et puis. À bientôt, hein.
À bientôt. Bah, de toute façon, faut nous tenir informés, hein.
Bien sûr, on se tient informés.
Hein, voilà.
Bien sûr.
Et c'est Jean-Marie qui va servir de virgule, comme une virgule dans Les Misérables ou un point d'exclamation dans L'Amant de Lady Chatterley. Je crois que ça, c'était une citation de Pierre Perret. Ah.
Premier frima. Les guerres et tragédies lors des premiers frimas. portèrent le nouveau-né au sortir de l'étable à rechercher l'abri dans un château de sable. L'arbre venu du ciel sur la terre s'imprima. Brûlé par le soleil, ses feuilles en matelas, ramassées par mes soins au parfum de l'automne, le menèrent à l'échange où tant d'idées détonnent. Interjection, brimade, bravo, halte là. L'anfractuosité des lois fait son boucan. Le silence dérange. Je la musique et m'assied. L'empathie nuit au rêve, mais au grand jour leur sied. Le cri dans la douleur est vendu à l'encan. Conviendrons-nous un jour d'arrêter de souffrir? Quand reconnaîtrons-nous, bouddhistes, prêtres, rabbins, la nécessaire envie du plongeon? Pour offrir à l'ombre de son arbre la nage à ce bambin.
Alors, Anne va dire sa petite chronique théâtrale.
Oui, c'est pas les Molières, mais voilà. Alors, on a parlé de belle poésie, de beau langage, et là, on continue avec une féministe baroque qui s'appelle Madame de Sévigné. Elle a 400 ans cette année, cette chère marquise. Et en ce moment, au Poche Montparnasse, eh bien, il y a des lettres choisies, commentées par un grand amoureux de la marquise qui s'appelle Sébastien Lapaque. Et qui connaît très bien le sujet. Les lettres choisies sont dites par la grande Béatrice Agenin, qui est extraordinaire. Alors, vraiment, c'est un bonheur de célébrer les 400 ans de la marquise, parce que c'est très amusant. Il y a beaucoup de choses qu'elle dit, des lettres aussi en plus sur son gendre. Heureusement qu'il n'était plus là, Monsieur de Grignan, qui était très loin d'elle, parce que qu'est-ce qu'elle pouvait lui pomper l'air en lui écrivant des lettres pour, parce qu'elle veillait un peu trop sur sa fille.
Mais comment tu sais qu'elle lui pompait l'air? T'exagères quand même.
Oh bah oui, c'est vrai, je suis méchante, mais ça, les belles-mères, elles pompent toujours l'air de leur.
Oh.
Bah oui, je pense.
Mais c'est un cliché, ça.
Oui, peut-être. Mais enfin, donc, il y a comme, beaucoup de douceur, de gourmandise, de drôlerie et une pointe de causticité sur Monsieur de Grignan, parce que, bon, bah, apparemment, il ne s'occupe pas assez bien de Mademoiselle de Sévigné, de son épouse, et bien Marie de Rabutin-Chantal lui remonte un peu les bretelles. Alors il y a, c'était pas une précieuse ridicule, Madame de Sévigné, elle avait beaucoup d'esprit, beaucoup de culture, beaucoup d'amis, et c'est un plaisir de lire, d'écouter ses lettres. Alors il y a un petit bémol, c'est que Sébastien Lapaque donne la réplique en tant que conférencier. Ce monsieur a beaucoup de culture aussi sur le sujet. Malheureusement, même dans la salle du poche, on n'entend pas bien ce qu'il dit. Alors, comme j'ai suggéré à l'attaché de presse de lui mettre un petit micro, parce que c'est pas possible. Il y a des gens qui rouspètent à la fin. Et c'est un petit peu dommage. Donc, moi, je vous invite à aller voir les lettres de Madame de Sévigné par Madame Béatrice Agenin, qui est merveilleuse dans le rôle. Au poche Montparnasse, c'est les vendredis et samedis à 19h, dimanche 15h, et c'est jusqu'au 5 juillet. Alors, on a aussi une autre, j'aime pas dire le mot autrice, une autre romancière, Agatha Christie. Alors là, ça se passe au Lucernaire. Agatha Christie, figurez-vous qu'il y a un siècle, elle a disparu quelques jours, ça.
Oui, c'est connu, ça.
C'est connu, ça. Par contre, on ne saura jamais ce qui s'est passé parce qu'elle a jamais, elle a toujours un peu éludé le sujet, hein. C'était pas, elle voulait pas en parler. Donc, ça s'appelle Mystère à Silent Pool et on plonge la tête la première dans un univers bluffant, des décors dignes d'une bande dessinée avec des comédiens un peu survoltés. Qui surjoue un peu, mais bon, ma foi, c'est une comédie, c'est pas une tragédie. Et donc, ils essaient de découvrir ce qu'a fait Madame Agatha Christie et si on va surtout la retrouver vivante, la bonne Agatha. Alors oui, on la retrouvera, bien sûr. Et il y a là une jeune femme policière qui s'appelle Hastings, comme le partenaire d'Hercule Poirot. Et cette jeune femme parviendra à elle, bon, ça c'est encore une vision de l'auteur. Elle parviendra à trouver ce qui s'est vraiment passé et pourquoi Madame Agatha Christie avait disparu. Donc ça aussi, c'est amusant à voir. Je vous invite à y aller au Lucernaire. C'est du mercredi au samedi, 21h, dimanche 18h. Ça dure 1h30, ça va. Et là où je me suis bien marrée, je suis allée au Gémeaux Paris. Et je suis allée voir Nouba, c'est-à-dire nouvel opus ultra festif border a cappella, avec les Divalala, qui sont trois jeunes femmes qui fêtent leurs 15 ans de scène. Et donc, écoutez, c'est bien simple, la boule à facettes est sortie, la rigolade aussi, c'est très festif, très joyeux. Et on chante avec elles, elles rechantent un peu les succès revisités qu'elles ont chanté par le passé. Elles parlent aussi de leur surboom, de leur première surprise partie. Je sais pas si tu as eu une première surprise partie, Evelyne. Moi pas. Moi, c'était pas mon époque.
C'était pas la mienne non plus, monsieur. Voilà. Nous sommes des vieilles.
Voilà, on est des vieux, tout. C'est pour ça.
Des vieux.
Voilà, on est des vieux. Alors donc, là aussi, c'est très drôle. Elles allument le feu, comme aurait dit notre amie Johnny. Et c'est très drôle. Ça fait un bien fou. Et je vous signale quoi. Alors, elles chantent plus pour l'instant. Bonjour. À Paris. Et elles seront à Avignon au théâtre des Gémeaux.
Oui.
Gémeaux Avignon. À 19h45. À 19h45.
Il y a le monsieur qui va passer. Bonjour.
Ok. Eh bien, écoutez, voilà, ma petite chronique théâtrale est terminée. Et je vous remercie de votre attention. Ciao.
Merci.
Je vous en prie.
Ce matin, les journaux télévisés ont annoncé le décès de l'autrice la plus célèbre du monde, la Lucrèce Borgia de la littérature policière, avec plus de 250 victimes à son actif. J'ai nommé Agatha Christie. C'est drôle, j'ai lu tous ses livres, mais l'histoire qui m'amuse le plus, c'est celle qu'elle n'a pas écrite. Eh oui, personne n'a jamais eu le fin mot de cette affaire. J'aimerais vous raconter ma version du mystère. Revenons 50 ans en arrière, voulez-vous ? Nous sommes le 4 décembre 1926 au commissariat de Surrey quand l'inspecteur William Kenward s'apprête à recevoir un coup de téléphone. Ah ! Ça sonne !
Inspecteur Kenward, j'écoute ça. Ah, commissaire, en quoi puis-je vous être utile ?
Et voilà, c'était la bande-annonce de Mystère à Salenpool de Lucernaire, 53 rue Notre-Dame-des-Champs, une adresse que je citais régulièrement quand Vincent Jarry y organisait une fois par mois ses après-midi poésie et découverte et mangeaille, si je me souviens bien. Allez, Moa, c'est à moi. Au revoir, à toi.
Bon ben bonjour, chers auditeurs, auditrices de Radio Libertaire. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis venu avec un invité qui s'appelle Monsieur Rahim, qui s'occupe d'une association qui s'appelle APCV.
De promotion des cultures et du voyage.
Donc je te laisse te présenter.
Oui, ben c'est Rahim Rezia, je suis coprésident de cette association de promotion des cultures et du voyage qui vient de fêter ses 35 ans, il y a au mois de mars de cette année. Voilà.
Et alors, qu'est-ce que vous faites dans cette association ?
Alors là, il y a deux choses. Il y a la partie d'abord individuelle, en lien avec la guerre d'Algérie, et l'autre partie, activité de l'association. D'abord, il faut dire que cette association s'est créée à plus de 35 ans, à la suite d'un voyage en Andalousie, avec des jeunes à l'époque, maghrébins, espagnols, turcs, africains. Et au retour de ce voyage en Espagne, en Andalousie, on a connu un peu cette histoire de coexistence des cultures. De fait, on a créé, à partir de là, l'agence de promotion des cultures et du voyage. Agencer, les gens comprennent, certains comprennent que c'est une agence de voyage. C'est faux. Agencer, en termes de français, c'est agencer les choses. Et nous, on veut agencer les cultures, mettre ensemble les cultures. Donc, en fait, pour résumer, depuis, on a quatre activités principales. Une activité qu'on peut appeler autour de la culture du monde, hein, notamment des cultures méditerranéennes, à travers bien sûr la musique, le théâtre, la calligraphie, etc. Nous avons une deuxième activité qui nous semble aussi importante, c'est tout ce qui tourne autour de la mémoire. C'est pour ça qu'on a travaillé d'une part sur la participation des anciens combattants, tirailleurs, soldats, et récemment, c'est les soldats oubliés d'origine étrangère. C'est il y a 2 ans. On vient de découvrir qu'il y a aussi des étrangers qui ont participé à la résistance. Ça, c'est, et ça, on le fait tous les ans, d'autant plus qu'on a fait deux films, courts-métrages. Un, on l'a fait avec les anciens combattants, dont un, il est encore vivant, il est à Bondy, et puis il a 96 ans, je crois. Et le deuxième voyage à Verdun, on l'a fait avec les jeunes, parce qu'il nous semblait important de transmettre aux jeunes. Ça, c'est concernant, bon, un peu l'histoire. Bien sûr, on a travaillé aussi sur l'apport d'immigrants à la société française. D'ailleurs, on a réalisé le premier centenaire de l'immigration algérienne à la salle des métallos, pendant 15 jours, il y a longtemps, en 1905. Alors, 1905, je ne me rappelle plus la date exacte. Voilà. Après, on s'est orienté vers les balades, justement, les balades pour connaître un pays ou une région, ses cultures. La première balade qu'on a faite sur la ville de Saint-Denis, puisqu'on est à Saint-Denis, c'est connaître la ville de Saint-Denis, connaître sa ville, et en même temps, Saint-Denis a une grande histoire avec l'Algérie. C'est pour ça qu'on fait aussi la balade de la petite Algérie à Saint-Denis. En même temps, on fait aussi une balade on fait une balade à la Goutte d'Or. Pareil, le principe est connaître le quartier, ton quartier, et en même temps, il y a un voyage spécial, l'Algérie à la Goutte d'Or. C'est une grande histoire. Là-bas, ça prend du temps. Après on s'est aperçu qu'en fait, il y a une présence maghrébine à Paris, dont l'étoile nord-africaine de Messaleh Hadj, qui est née en 1926 à Paris. Et nous, on fait les balades connaître le Maghreb à Paris. Bien sûr, il y a tout le circuit historique des Maghrébins à Paris. En passant, bien sûr, le lieu où s'est créé l'étoile nord-africaine. Bon, et ce qui est important aussi, c'est qu'on essaye depuis un certain temps, depuis de nombreuses années, on intervient dans les écoles, surtout dans les lycées et collèges. Dans les lycées et collèges, ça c'est intéressant parce que les enseignants préparent leurs élèves à l'histoire de la guerre d'Algérie, et nous on vient en tant que témoin. Et puis il y a quatre témoins, un témoin pied-noir, un témoin appelé, un témoin, on peut dire, français d'Algérie, et un membre du FLN, un jeune du FLN, dont moi je représente un peu cette, la partie guerre de libération. Justement, j'en profite pour vous dire que pourquoi j'interviens en tant que militant indépendant du FLN, parce que pour l'histoire, moi j'étais arrêté à l'âge de 17 ans et 3 mois. J'étais arrêté dans la ville de Saint-Étienne. J'étais venu à l'âge de 8 ans, c'est mes frères qui m'ont amené là, parce que mes deux oncles, ils ont fait la guerre 39-45. Les deux oncles. Voilà. Et donc, j'ai été arrêté justement en mois de février 1958, d'ailleurs juste avant l'arrivée de De Gaulle, et j'étais embarqué parce qu'ils avaient démantelé depuis longtemps les cellules du FLN. Donc le FLN n'existait plus dans la ville de Saint-Étienne, et donc on m'a contacté de reconstituer un peu ces cellules. Malheureusement, j'ai été arrêté. Mes souvenirs de ces arrestations, que ces deux inspecteurs qui étaient connus dans Saint-Étienne, il y avait deux inspecteurs, l'un on l'appelait le Corse, parce qu'il était âgé, Chibani d'ailleurs on l'appelait, et un autre, Corse aussi, on l'appelait le Rouquin. Alors je ne vous dis pas, quand le Rouquin et le Chibani, parce que quand on entend qu'ils sont dans le quartier ou qu'ils vont arriver, il ne faut mieux pas se trouver sur leur chemin. Ça a été la terreur, hein, les rafles et tout. Bon bref, donc j'étais arrêté, et ils m'ont embarqué au commissariat de Terre-Noire. Les gens qui nous écoutent, et aux amis de Terre-Noire, des Stéphanois, ils connaissent le commissariat de Terre-Noire. Donc, la première journée, enfin plutôt, ils m'ont arrêté là à 14h, ils m'ont torturé, j'ai encore la trace sur le pied, là, témoin. Tapé, bien sûr, insulté, tout ce qu'on veut. Et quand ils ont vu que... Le lendemain, ils ne m'ont pas touché. Quand ils ont vu qu'il n'y avait rien à... ils m'ont laissé tranquille. Mais, ils m'ont gardé un mois dans le commissariat, dans une cellule. Ça avait l'intérêt du commissariat, on ne voit pratiquement rien. Et puis, je n'avais pas de visite. J'ai interdit de visite. Et un mois après, eh ben on m'appelle avec d'autres hein, qu'ils ont ramassés déjà, qui sont sortis de prison, de Bellevue, pour les ramener au camp du Larzac. Alors, je vous pose la question, comme si j'étais dans un lycée ou dans un collège, pourquoi on m'a emmené au Larzac alors que j'avais 17 ans et 3 mois? Allez, je vous pose la colle. Non ?
C'est quoi la colle ?
Le Larzac, juste... ça me dit quelque chose, le Larzac aussi.
Non, mais pourquoi ?
Pourquoi le Larzac, c'est ça ?
Non, le Larzac, c'est normal, ils ont amené beaucoup de détenus là-bas. Oui. Non, pourquoi ? J'avais 17 ans et 3 mois,
oui.
On m'a amené au Larzac. Alors que je devrais, de toute façon, à l'époque, il n'y avait pas de... qu'on m'a amené en prison.
Oui, mais vous étiez mineur.
Bravo, madame. Vous avez gagné un livre. Non, c'est vrai qu'on a fait, c'est dommage, je ne l'ai pas.
C'est quoi la réponse ?
Il est mineur, il était mineur.
Parce que j'avais, à l'époque, majeur, j'étais 21 ans.
Oui, moi aussi. Ouais.
Et comme mineur, là, j'étais obligé d'être embarqué dans le camp du Larzac.
Uh-huh.
Et pour Maura, peut-être qu'il ne le sait pas, quand on arrive au camp du Larzac, il y avait beaucoup de bus, hein, de CRS qui ont ramené des gens, pas uniquement Saint-Étienne, ils ont ramené de Lyon, tout ça, pour les ramener dans le Larzac. Dès que je descends du bus, j'entends « Allah, yarham fransa, j'avoue l'ouled ». Pareil, je demande aux élèves s'ils ont compris ce que j'ai dit. Il se trouve souvent, il y a des élèves qui connaissent l'arabe, et ils répètent à leur truc, que Dieu bénisse la France, ils ramènent des gosses. Il se trouve que dans la semaine que je sors, parce que les bâtiments-là, c'était 100 personnes qui dorment, c'est les lycées proposés. Dès que je sors du bâtiment ou dans la balade, yarham, 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 yarham. Et j'ai gardé Rahim, ce surnom, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et pour abréger, donc je suis resté 3 ans. Au mois de février, je crois, 69 ou bien fin, ils ont embarqué tous les jeunes au camp de Tôle, dans Bourg-en-Bresse. Mmh. Et vers février 1961, ils décident de partager le camp en 4. Il y a les irrécupérables, ceux-là, quand on les appelle, quand on vient les chercher dans le camp, c'est pour les ramener en Algérie. Et là-bas, c'est pour être fusillé. Il y a pas... Ah non, mais attendez, il y a des preuves aujourd'hui. Hein. Des preuves, et puis nous, on sait un tel est parti, on ne le revoit plus. On ne le revoit plus. Après, il y avait le camp des durs. Mm-hmm. Ceux-là, enfin, ils ne savaient pas. C'est parce qu'il y avait un service psychologique qui suit les détenus. Un tel, ça va, on peut le libérer ou pas, l'autre, on le maintient. Les durs, bon, ils n'ont rien dit. Après, il y a un autre, c'est le camp des récupérables. Ceux-là, ils sont sûrs qu'ils vont le récupérer. Non, mais attends, pas fini. Et après, le camp des doux. Alors, ils ne savent pas ceux-là, ils sont gentils et tout. On ne sait pas. On ne sait pas très bien. Mais il se trouve que le camp des doux est devenu le plus dur du camp. Parce qu'on a refusé l'organisation de partage du camp. Du coup, bah, la répression, hein, c'est les délégués, les responsables qui sont appelés, c'est les comment on appelle ça, c'est pas en prison, c'est un mitard. Là-bas, c'est des cabanes. Quand on te met dedans, on te garde 2 jours, 3 jours, 4 jours, c'est pas bref. Ils ont décidé, tous les meneurs, à l'époque, on a les meneurs, nous amener au camp du Larzac, rebelote au camp du Larzac. Moi, je me rappelle toujours, on arrive le 5 juillet, le 5 juin. Mais, moi, dans mes papiers, je devais sortir le 5 juin, justement. Mais on est tombé avec la grève de 9 jours de tous les détenus de France, y compris Ben Bella, Aït Ahmed, Reda, tous les détenus, parce qu'on revendiquait le statut politique. Là, j'en parle parce que c'est difficile. Tous les jours, j'attends, ça y est, parce que je me suis... Attends. Un mois, ils m'ont libéré le 5 juillet 61. Et moi, je suis de Saint-Étienne, donc je me libère, interdit toute la France, hein, sauf l'île de France. J'ai mes papiers, j'arrive à Saint-Étienne. Ah, chez moi, il me dit, vite, il faut que tu ailles à la gendarmerie. Ah, ils sont venus chercher un mois. En fait, si ils m'avaient libéré le 5 juin, ils m'auraient emmené pour l'armée. Donc, je suis venu après. Et moi, à l'époque, sincèrement, je ne connaissais pas cette histoire de conscience ou insoumis, tout ça. Mmh. Je ne le savais pas. J'ai déjà passé 3 ans de tôle, et ils veulent encore aller. Je monte avant, dans la ville devant, je me rappelle au mois d'août, et ça tombe en même temps avec le massacre du 17 octobre 1961. J'ai encore eu de la chance, parce que ce jour-là, avec un ami Saad qui était avec moi dans le camp du Larzac, il nous dit d'aller à l'opéra manifester. On arrive à la porte de Versailles, déjà les Algériens, ils nous disaient de refouler. Bon, on est revenu, mais comme notre hôtel est là avant, rue Pierre Sémard, il est dans une descente. Et en plus, il n'y a pas de chance, l'hôtel est en face du commissariat à 200 mètres. Mmh. Ils nous voient, et nous aussi on les voit. On arrive. Saad, qu'est-ce qu'on fait là? On y va, on est arrêté. Ah oui, il n'y a pas d'autre solution. Et puis on a une idée de passer la nuit dans le parc devant qui était accolé de l'hôtel. C'est-à-dire que tout le monde y va. Le lendemain, on a été à 6 heures. Moi, j'étais à Issy-les-Moulineaux parce que je travaille aux lampes Mazda. Mazda.
C'est quoi?
Non, les lampes. Mazda. Je travaille là.
Mazda, ouais.
Et puis, mon ami, là, il travaille dans le bâtiment. Mais dans la semaine qui suit, paf, un vendredi, moi, j'étais à la fenêtre, puis j'entends plaf, plaf, plaf. Je regarde, ils avaient abattu quelqu'un qui faisait ses ablutions dans la cour. Mm. Alors, ça, j'en garde un mauvais souvenir. Parce qu'on était quoi, une quarantaine de personnes, c'est des lits superposés, même dans les hôtels, soi-disant hôtels. Et je vous assure que les soldats, les CRS, les soldats, les gendarmes, c'est vrai qu'ils nous insultaient de temps en temps, ils ne respectaient pas de temps en temps, mais il y avait les harkis. Alors là, dès que tu parles, vous voulez pouilleux, vous voulez l'indépendance, coup de pied, tout ce que vous. Ou alors, vous, l'Hfaya, c'est une pied. Vous n'êtes pas capable. Bref, on nous a amené au camp de Vincennes, château de Vincennes, effectivement, le camp de Vincennes aussi. Hein. Ils ont amené beaucoup de gens, attention. On s'est retrouvés là-bas, peut-être 1000 personnes, sans compter le rassemblement des Algériens à la suite du 7 octobre, le palais de Versailles, palais des sports, pardon. Il y avait 7000 détenus par les sports. Mm-hmm. Il y avait aussi le stade Charletti. Oui, sans compter, le commissariat était plein, puisqu'ils ont mobilisé tous les bus. Voilà. Et le lendemain, ils m'ont libéré. Ah, je me dis, tiens, ils m'ont libéré parce qu'en fait, s'ils avaient Internet aujourd'hui, Donc voilà, moi, ça c'est mon histoire par rapport à la guerre d'Algérie. Et je continue toujours dans le cadre d'une association, comme je disais tout à l'heure, qui s'est créée à la suite d'un voyage en Andalousie, parce que les gens qui sont partis dans ce circuit étaient de différentes nationalités. Et effectivement, on a rencontré des Espagnols, des Australiens. D'autant plus, ce sont les Espagnols, dont le vice-président aujourd'hui, il est à Palmanche, d'ici, il est dans le 11e arrondissement. C'est eux qui ont beaucoup plus animé le séjour de nos amis. On était nombreux, une cinquantaine de personnes. Je crois, si j'ai le bon souvenir, je crois que c'est 6 mois après, ou plus, ben, il y a des gens qui ont dit, tiens, ici, on se voyait encore autour d'une paille là. Et on s'est revus, et l'idée est venue de créer cette association. D'ailleurs, sa devise, c'est « J'apprécie davantage mon voisin, moi, et ma voisine,
Anne.
Evelyne, depuis que je m'intéresse à sa culture. Voilà. » Et depuis, on a un travail de beaucoup plus autour de vivre ensemble, avec nos diversités que je n'oublie pas. Voilà.
Et donc, pour rejoindre l'histoire, on va repartir en 45.
Absolument.
Donc, c'était le mai 45.
Alors, justement, alors, dans le cadre de l'association, on a une activité, ce qu'on appelait mémoire partagée. Quand on a commencé, on a bien sûr commencé sur l'Algérie, mais on s'est dit, comme l'association était pluriculturelle, il y avait tout, pourquoi on travaillera pas sur justement sur la répression dans les différents peuples, aussi bien marocains que tunisiens, que congolais, que arméniens. Je crois qu'on n'a pas travaillé sur... Non, arménien... Non, vietnamien, à titre personnel, on s'est engagé. Je parle dans le cadre de la société. Donc, on a essayé de faire ce travail de mémoire autour de ce mois de la répression des peuples. Bon. Mais beaucoup plus tourné vers les peuples maghrébins. Bon. Parce que dans l'association, il y avait une majorité de maghrébins. Et en plus, l'histoire de la France fait que la plupart des maghrébins et Afrique noire ont une histoire avec la France. Donc voilà. Donc chaque année, depuis 35 ans, quand il arrive le mois de mai, eh ben, on organise des tables rondes, on fait venir des gens, on fait aussi faire venir des intervenants. Au début, on avait la possibilité de rencontrer des gens qui ont vécu ce CITIF, d'autant plus que moi j'y étais dans la région. Mais pas. Voilà. Ça, on le fait tous les ans. Tous les ans, on fait le 17 octobre 1961. D'autant plus qu'on a fait plusieurs films là-dessus. Bien sûr, le 17 octobre 1961. Moi, je pense qu'il est au courant. Puisqu'on réunit ce travail-là se fait déjà à titre associatif, mais en même temps dans les maisons de quartier et également dans certains cinémas, pas partout. Parce que, et d'autant plus que l'association est membre du collectif du 17 octobre qui organise tous les ans une manifestation, justement, devant le pont Saint-Michel, tous les 17 octobre. Voilà. Après, on revient, mais on n'a pas beaucoup activé là-dessus, sur le massacre des Algériens le 14 juillet 1953. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle le défilé populaire. Il n'y avait pas. C'était le peuple qui défile pour fêter la victoire. Et il se trouve qu'il y avait un cortège syndicaliste du mouvement démocratique, des libertés démocratiques du peuple algérien, animé par l'étoile nord-africaine qui était dans le cortège. Et ils ont, comme partout, ils ont revendiqué l'indépendance.
Oui.
Donc il y a eu 8 morts. Ça, c'est récent. Ça, il y a une association qui travaille là-dessus, qui ont fait un film là-dessus, très bien. Mais nous, on ne fait que la promotion de ce film-là. Voilà. Pour ces types, c'est autre chose. Je reviens un peu. Parce que moi, on fait aussi des... Tout à l'heure, je disais qu'on fait des promenades mémorielles sur Saint-Denis aussi, hein, sur Barbès-Goutte d'Or, et connaître le Maghreb à Paris. Il se trouve que, dans le cas de ce Maghreb à Paris, il y a une plaque du 17 octobre sur le pont Saint-Michel. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on reçoit des groupes de jeunes. C'est marrant. Si, les enseignants aussi. C'est des groupes qu'on a reçus d'Italie, d'Angleterre, de New York. On a reçu d'Allemagne. On a reçu un groupe amené par SOS Racisme. Hein. Mmh. Ils ont amené 36 jeunes. On leur a fait tourner le quartier Goutte d'Or. Le quartier Goutte d'Or, je crois qu'il
Oui, parce que l'émission se termine.
Dans une minute.
Ah. Oui. Il faudra revenir, monsieur. Parce que vous avez beaucoup de choses à dire.
Oui.
Hein. Il faut revenir. Hein.
Oui.
Un mois.
Absolument.
Hein. Est-ce que vous serez... Alors, le 18 juillet, je ne sais pas si...
Non, non, c'est parti pour la rentrée, là.
Ah, c'est parti pour la rentrée, d'accord. Bon, on prendra rendez-vous.
Oui.
Et donne-nous, en 3 secondes, dis-nous pour le spectacle d'Ama Meliani.
Alors, justement...
Oui.
Grande tristesse.
Ah bon ?
C'est que nous avons été abandonnés par les jeunes comédiennes qui ont trouvé du boulot, certains étaient malades, etc.
Oui.
Ce qui fait que la pièce a été... reporté à la rentrée.
Ah bon, d'accord. Donc, d'accord. Donc tu serais là éventuellement la semaine prochaine.
Je serai là la semaine prochaine.
D'accord. Mais à la fin d'émission, parce qu'il y a 2 invités, moi je pensais que tu serais pas là.
Oui.
Il y a 2 invités.
D'accord.
Il y a Isabelle
André. Bon, on règle tout ça dans le studio et dans l'immédiat. On démarre Bulle Noire sur Radio Libertaire, 89,4 MHz en FM et pas sur Internet aujourd'hui, hélas.
T'as bien capté Bulle Noire sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar sur Libertaire, Radio Libertaire.
De 17h à 19h,
baby.
Ton ami Bob reçoit le gratin des auteurs. Radio Libertaire.
T'as bien capté Bulle Noire sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar sur Libertaire, Radio Libertaire.
Attention, c'est pas l'heure de 4h,
baby.
Faut pas te tromper, les flingues vont sortir des holsters.
Bien capté Bulle Noire sur Libertaire,
Radio Libertaire.
On va parler de polar sur Libertaire, Radio Libertaire.
On parle de 38, de calibre 44,
baby.
Mais bien sûr tu es sur 89.4.
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire. Radio Libertaire sur 89.4.
Bonjour à tous, et bien comme annoncé sur l'agenda, en revanche sur l'agenda il n'est pas annoncé que l'émission n'est pas disponible sur Internet, et j'espère que vous avez un poste à Galène. D'ailleurs ça tombe plutôt bien si vous avez un poste à Galène, parce qu'aujourd'hui on reçoit Dominique Ravic qui vient de publier un dernier album des Primitifs du Futur, c'est Les Crimes du Musette, on va en parler.
Ras-le-bol,
c'est ça. Un ras-le-bol, Non, mais franchement, quand on écoute des émissions à la radio, c'est ce qu'il y a de mieux.
Tout à fait. Oui. Tout à fait.
Et puis, également avec nous, Mo/CDM. Alors moi, je ne sais pas comment, quand on choisit un pseudo comme Mo/CDM, est-ce que les mecs viennent te voir dans des séances de dédicaces, ils disent « Alors, Mo/CDM !»
Mais comment ils s'adressent à toi ? Moi, tout à l'heure, j'ai vu la couverture de ton livre. Ouais, comment je te parle ?
Eh ben, Mo, on m'appelle.